H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute.
C'était le matin, et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. Le goéland. Le goéland qui sommeille en chacun de nous.
Non, c'est quoi le but, ça, c'est s'il n'y a pas assez de place pour mettre ça ?
Non, mais il faut que
je me suis déjà
Auditeurs, auditrices, bienvenue. Je suis en compagnie de l'association Bretagne Vivante. Et là, a priori, qu'allons-nous faire ?
Alors, aujourd'hui, on va aller capturer des goélands argentés, des goélands bruns et peut-être du goéland marin, dans le but de leur poser des bagues et des GPS. En fait, c'est dans le cadre d'une étude qui nous permet de suivre leur mouvement, suivre leur déplacement.
Et alors, pour la capture des goélands, il faut un filet, une petite cage.
Alors, pour la capture des goélands, donc là, c'est assez particulier parce qu'en fait, on capture des individus adultes qui sont actuellement en reproduction. Donc, on va capturer des oiseaux qui sont en train de couver des œufs. Parce que sinon, capturer des adultes, c'est assez compliqué. Et en plus, nos questions biologiques s'appliquent actuellement aux oiseaux nicheurs. L'idée, en fait, c'est d'essayer de travailler à l'acquisition de connaissances sur l'utilisation de l'espace marin par ces oiseaux pour mieux mettre en place des secteurs de protection notamment et mieux connaître leurs besoins en espace vital. Il y a trois gros projets d'éoliens en mer en Sud-Bretagne et notamment le troisième qui va être de l'éolien flottant et qui est un projet d'envergure. Et finalement, l'espace marin, on le connaît très peu. Parce que c'est éloigné, parce que ça coûte très cher d'aller faire des études en mer, ça demande du temps, ça demande des bateaux, ça demande des moyens humains assez conséquents. Et du coup, c'est des sites sur lesquels finalement on a peu travaillé les 30 dernières années. Et les études en mer, finalement, elles sont récentes, elles ont 10 ans avec l'arrivée en France des projets éoliens offshore. Et du coup, on espère pouvoir cartographier à l'échelle des façades maritimes un peu mieux ces déplacements, ces zones fonctionnelles pour anticiper les implantations des futurs parcs éoliens et avoir le moins d'interactions possible entre les espèces et les projets humains.
En tous les cas, je trouve que votre bureau d'études, il est pas mal. Hein.
Notre bureau est magnifique, on a un cadre assez particulier, on a beaucoup de chance.
Les cages, c'est des simples trappes, une porte, un petit fil, on met la cage sur le nid, quand le goéland revient au nid, il se prend les pattes dans le fil fait tomber la porte et le goéland dans la cage. Et après nous on le récupère et puis on va venir ici le baguer, mettre le GPS et voilà.
D'accord.
Tout simplement.
Tu me disais que contre toute attente, en fait, le goéland est en chute.
Ouais, bah oui, c'est. On a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'on les voit de plus en plus en ville. Donc il y a de plus en plus de gens qui les voient. Et ils sont notables parce qu'ils vont fouiller dans les poubelles, etc. Mais nous qui suivons les goélands sur les îles et les îlots, donc leur milieu naturel de base, On en voit de moins en moins. Là, tu vois, on galère en fait à trouver des endroits où il y a suffisamment de nids et d'individus pour les capturer. Et donc, à l'échelle de la Bretagne et même de la France, parce que c'est en Bretagne qu'il y a la plus grosse population de goélands, et ben, c'est une chute de moins 70% en 20 ans. Donc c'est énorme. Et là, le goéland argenté en Bretagne est passé en espèce vulnérable. Donc ça veut dire qu'il y a un sacré déclin. Et du coup, là, les raisons, par exemple, pour cette île, c'est notamment la fréquentation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Tu vois, là, il y a des chemins autour de nous, donc c'est assez près des falaises. Et les goélands, normalement, ils n'aiment pas trop les falaises. C'est plutôt des oiseaux de prairie. Ils se mettent, là, tu vois, ici, ce serait nickel pour eux. Ils se mettent autour de nous, là, c'est bien. Le problème, c'est que quand il y a des gens qui passent, ils ont peur, et donc ils se mettent plus ici.
Donc, en fait, c'est la pression touristique.
C'est une des raisons, c'est la pression touristique. Ouais. Et après, y a d'autres raisons. Hein. C'est la nourriture aussi. Il y a moins de poissons. Il y a moins de poissons, donc ils vont dans les déchetteries. C'est beaucoup plus facile de trouver la nourriture dans les déchetteries. Et on a même des goélands parfois qui font leur nid, tu vois, sur les îles, et ils vont se nourrir dans la déchetterie qui est à l'Orient. Donc ils traversent, tu vois, c'est... parce que c'est plus simple pour eux que de trouver du poisson dans la mer. Donc on en est arrivé là. Et puis il y a d'autres soucis après avec des espèces parfois un peu invasives, du style le rat. Le rat, pour les oiseaux marins, le problème c'est que les oiseaux marins ils sont au sol. Et donc le rat il peut facilement grimper dans le nid et aller grignoter les œufs. Donc ça c'est un autre souci. Mais ouais, pour le pire en fait c'est la pression.
Touristique.
La pression vraiment de passage. Quoi. Mais l'idée c'est voilà, de préserver des sentiers côtiers, donc à terme d'en bloquer certains qui puissent plus être accessibles. Et quand même de garder quelques points de vue sur la côte bien sûr. Parce que, les humains peuvent aussi se balader sur la côte, mais quand on voit certains milieux, il y en a qui sont pas propices aux oiseaux, voilà, tu peux te permettre de te balader à côté.
De toute façon, je suis entièrement d'accord avec toi, le tourisme vert, c'est pas bon. Bon, allez, je vous laisse travailler. Avec l'association Bretagne Vivante.
Ah, là, il y en a là-bas. Peut-être Marie. Marie, là. Marie. Allez, on y va, là. Il y a un nid en dessous, là.
Pour la capture des goélands. Moment de stress pour les goélands. Voilà pourquoi, encore une fois, auditeurs, auditrices, il ne faut pas s'approcher des falaises. Seules les associations, comme vous l'avez compris, de protection des oiseaux sont habilités à s'y rendre. Oh, c'est beau. on s'éloigne de la falaise. On regagne le sentier. Le sol est constitué d'une forme de lande, dont des végétaux à ras le sol, légèrement épineux, beaucoup de fleurs. Le travail que fait Bretagne vivante est passionnant. Et je trouve personnellement que cela procure une forte émotion lorsque vous voyez autour de vous ces oiseaux marins, notamment donc les goélands tournoyés. Est-ce que vous considérez comme des sentinelles de la biodiversité et quel message auriez-vous envie de transmettre?
On est des sentinelles de la biodiversité et on a un rôle d'alerte en fait. D'alerte aux politiques publiques et au grand public sur ce qui peut se passer. On est là pour constater en fait. Mais si derrière personne prend des décisions, nous on peut pas le faire en fait. C'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est d'informer les gens et de constater ce qui se passe.
Les premiers sentinelles, c'est les animaux au final, quoi. C'est eux qui nous donnent une réponse en fait de ce qui se passe vraiment, que nous on ne peut pas vraiment observer, quoi. Mais on peut l'observer par les suivis démographiques des populations, les suivis plus poussés grâce aux bagages, grâce à la pose d'appareils embarqués, qui permet d'avoir des résultats à fine échelle, quoi, et de comprendre ça, quoi. Nous, on ne fait que transmettre en fait ce qu'on observe.
Ce que vous observez, bien évidemment. Mais pourquoi avoir choisi les oiseaux?
C'est une vocation, je pense, pour pourquoi. C'est une passion, ça ne s'explique pas. Mais on n'est pas tous oiseaux. On a des fous d'insectes, des fous de poissons, on a des fous d'algues, fous de chauves-souris. Ça ne s'explique pas.
Toute la chaîne est indispensable à étudier, en fait. Et chaque taxon va nous apprendre des choses spécifiques sur l'évolution de la biodiversité. Donc on a besoin d'être sur tous les fronts, et c'est pour ça qu'on a des spécialistes de tout dans l'association, qui réussissons à peu près à travailler tous ensemble et mettre en lien nos observations.
C'est donc une action militante en fait.
Bah nous on n'est pas. Enfin, notre métier c'est pas d'être militant. Comme le disait tout à l'heure Marine, notre métier c'est de constater et c'est de suivre les populations. Le militantisme, on laisse ça aux bénévoles.
Aux adhérents de l'asso, qui eux prennent ce qu'on leur transmet, nos infos, pour ensuite aller militer.
Est-ce que le son, c'est-à-dire, vous permet d'identifier les espèces des oiseaux au-delà des jumelles? Bah alors c'est un super apprentissage, parce que différencier tel cri de tel autre, c'est la pratique.
Le juriste, il fait d'ailleurs un suivi sur les oiseaux.
On a un suivi sur l'île de Wap pour... étudier les populations d'oiseaux nicheurs, d'oiseaux communs, on appelle ça, donc c'est tous les oiseaux chanteurs Et en fait, le fait de chanter, c'est parce qu'il marque un territoire. Et donc, on fait 3 passages par an à une date précise, début du mois de avril, mai, juin. Et on note sur un trajet, on note tous les individus qu'on entend chanter. Et ce qui nous permet, en fait, sur les 3 passages, de caractériser les territoires de chaque individu. Et du coup, ça nous permet d'avoir un suivi d'une année sur l'autre de la dynamique un peu de ces populations d'oiseaux nicheurs, quoi. Et toutes les espèces d'oiseaux nicheurs chanteurs, quoi, on peut les détecter.
Oui.
Donc, on peut les détecter à l'espèce.
Ouais.
Quoi.
Il vaut mieux pas être sourd quand
tu fais.
D'accord. Là, il stresse moins parce qu'il n'a pas de lumière.
Il ne voit pas, donc il stresse un peu moins. Mais il stresse toujours. Hein.
Il faut être rapide quand
ouais,
même.
C'est ça, ouais.
Et après, il n'y a aucun, aucune contre-indication, enfin, je ne sais pas comment dire. Ça ne va pas déranger le développement de l'oiseau, le fait que tu le captures et que tu le bagues.
Mais potentiellement, si. Après, nos études permettent aussi de montrer ça, quoi, de définir ça. Et si on constate vraiment des soucis, on peut arrêter nos manips à tout instant.
Il n'y a pas de soucis pour le moment quand vous manipulez les oiseaux et que vous les baguez.
Ouais, c'est ça, jusqu'ici. Donc c'est après, on a des autorisations parties. Ouais. Là, il gueule parce qu'il est inquiet, quoi.
Ah ouais, ouais. Donc, on va faire vite. Allez, je vous laisse.
C'est manipulable pour les oiseaux, mais c'est grâce à ça qu'on a des informations pour... Ouais, c'est ça. C'était pour vous bien prendre des notes.
C'est toi qui avais pris les notes hier, non?
Non.
Tu veux prendre, je peux aller dans les bagues.
Goéland marin, ouais. Tu peux mettre femelle
dans
l'interrogation, en remarque, ouais.
Pourquoi une femelle ?
Parce que il est un peu plus, il paraît petit en tout cas, par rapport à d'autres, et c'est au poids qu'on va,
ouais.
On doit pouvoir le confirmer. Les jambes droites. Ouais, comme ça. Donc moi je te le pose dessus comme ça. Je peux tenir là, tiens le bec, ouais.
Et après, comme on l'a manipulé, il n'y a aucun danger s'il a des petits, tout ça.
Alors c'est pour ça qu'on travaille là sur des oiseaux qui n'ont que des œufs. On essaye d'être très rapide pour éviter que les œufs restent seuls trop longtemps. Et après, donc on va surveiller le comportement de l'oiseau au relâcher. La plupart du temps, ils s'envolent, ils vont se poser sur l'eau pour remettre leur plume correctement. Et puis, se remettre de leurs émotions, ils reviennent très très vite sur leur nid. Donc on surveille tout ça. C'est arrivé une fois, un oiseau qui a mis un peu plus de temps et qui n'a pas bien supporté le GPS. Malheureusement, c'est le risque quelque part.
Mais en tout cas, tout est noté et surveillé. Et si un jour on se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'impact, on arrêtera les manips tout de suite. Donc un oiseau marin, comme le goéland marin, là, il va se reproduire à partir de l'âge de 4 ou 5 ans. Donc déjà, toute son expérience de vie pendant ses premières années, il faut qu'il l'acquiert avec les adultes, et donc par le mimétisme, mais c'est déjà très compliqué pour lui. Ensuite, quand il va être reproducteur, il revient sur sa colonie de naissance, ou pas, et il va essayer de produire des poussins. Et après, cet oiseau, il va vivre 40 ans. Donc sur ses 40 ans de vie, il va en rencontrer hein, des problèmes. Donc le risque aujourd'hui, c'est que si on commence à perdre un, deux individus, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais en fait, ils mettent tellement de temps à atteindre l'âge de reproduction et sur le nombre de poussins produits chaque année, il y en a très très peu finalement qui vont être en capacité de venir se reproduire. Si on ne protège pas l'intégralité de la chaîne, dans 40 ans, il n'y aura plus de goéland en fait. Et on n'agit pas pour demain ou pour ce qui va se passer dans 5 ans, on agit aussi pour ce qui va se passer dans 30 ans, 40 ans. Ouais, c'est, donc, et cette vision, il faut l'avoir.
Donc si j'ai bien compris, vous récoltez les données, et puis après c'est aux États de faire le nécessaire pour protéger les oiseaux.
Et nous on travaille en fait avec des laboratoires de recherche, des chercheurs, à qui on transmet nos données, parce qu'on les analyse mais assez partiellement, c'est encore un autre métier de faire de la statistique. Et eux vont comparer les jeux de données, donc ils vont travailler à notre échelle micro-locale, mais ils vont aussi comparer les jeux de données à l'échelle nationale, ce qui permet en fait de voir les impacts cumulés, tout ce qui peut se passer à l'échelle nationale. C'est ça qui est intéressant. Et ces études, elles sont commanditées par l'État. Donc ils ont les cartes en main.
Et le touriste lambda que je suis et que la plupart des gens sont, quel doit être notre comportement, la meilleure manière d'agir pour ne pas déranger les oiseaux? Je crois que Hélène, non, elle est occupée, mais elle m'en a parlé, Hélène, tout à l'heure.
La meilleure manière d'agir, déjà, c'est d'avoir en tête qu'à Pâques, les oiseaux, ils pondent des œufs. On cherche des œufs dans le jardin, ils sont aussi dans le milieu naturel. Donc à partir de cette époque de l'année, jusque fin juillet, début août, on est très vigilant sur le dérangement qu'on peut avoir sur le milieu.
En fait, le dérangement, c'est une des menaces les plus importantes qu'on a ici, en Bretagne, dans le Morbraz. Et c'est aussi la plus subtile. On ne se rend pas toujours compte qu'un oiseau qui s'envole derrière, ça peut être un dérangement et qui peut être fatal. Quand un adulte s'envole parce qu'il a été dérangé, derrière, il laisse un nid sans protection. Donc ce nid-là, même s'il reste 10 minutes sans surveillance, il peut très bien, les poussins peuvent très bien mourir de chaud, mourir de froid, ou alors se faire manger par des prédateurs. Donc il suffit d'un envol pour avoir des conséquences qui peuvent être mortelles. Donc les bons gestes que je recommande pour protéger les oiseaux marins, pour limiter notre dérangement, tout simplement c'est de ne pas les faire s'envoler. Donc si vous voyez des oiseaux sur la plage, gardez vos distances, restez sur les bas de plage ou au plus près de l'eau, puisque les oiseaux qui nichent sur les plages, ils sont plutôt sur les hautes plages et dans les dunes. Je pense notamment au gravelot, à collier interrompu. Si vous êtes sur un sentier côtier, que vous voyez des oiseaux en falaise, essayez de ne pas faire trop de bruit. Et surtout, en littoral, que ce soit sur les plages ou sur les sentiers côtiers, évitez de lâcher vos chiens. Vraiment, gardez-les en laisse, ça c'est super important. Surtout donc, pendant la période de reproduction, à partir du mois de mars-avril jusque juin. Car un chien lâché en liberté, ça peut faire fuir les oiseaux qui assimilent l'endroit comme dangereux et ils vont potentiellement abandonner leur nid.
Thank you. Est-ce que vous considérez que votre travail est politique ?
Non, moi non. Pour moi, la science, ça devrait être une priorité, quelle que soit la politique du pays.
Sauf que beaucoup de scientifiques aujourd'hui commencent à se positionner politiquement parce que rien ne bouge. Donc, je réitère la question, est-ce que vous considérez qu'à un moment donné, votre travail, qu'il soit de recherche ou scientifique, doit s'insérer dans un mouvement politique pour alerter, comme tu disais, les populations des dangers, de la perte de notre biodiversité et de l'humanité, quoi, derrière?
Moi, je pense que oui, et je pense même que l'intégralité de la politique devrait découler de l'environnement et de notre réflexion aujourd'hui sur la préservation du milieu. Et de la préservation de notre habitat, en fait. Parce que là, on parle de l'espèce humaine.
Ouais. Notre travail, c'est pas de préserver la biodiversité, au fond. C'est de préserver l'humain aussi, clairement.
Surtout trouver des solutions de cohabitation. Surtout ça, quoi. Si on veut que ça soit durable, il faut qu'on cohabite. Il faut qu'on apporte toute la science, quelle qu'elle soit, autant que ce soit les oiseaux, les mammifères, les reptiles, la géologie, tout en fait devrait être politique.
Est-ce qu'on peut trouver un site net sur lequel les auditeurs pourront se renseigner sur vos activités, votre travail?
Oui, c'est bretagnevivante.org.
Très simple. Donc je vous conseille d'aller voir bretagnevivante.org. Ce sont des jeunes très dynamiques, très passionnés. Allez-y. Et surtout, respectez la nature. Tout simplement. Merci.
Merci à toi.
Être libre. Apprendre à voler. Apprendre à voler. Être libre. Sentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.